Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service avec comme thème comment chercher efficacement de l'emploi au lendemain de ses études universitaires. C'est de ce thème que nous abordons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Alain Poutou. Il est formateur et coordonnateur du centre de reconversion et insertion professionnelle. Monsieur Alain, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour monsieur le journaliste, merci de votre invitation. Je profite de votre micro pour saluer tous les auditeurs d'Okapi Service.
Chers auditeurs et auditrices, si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons notamment les commentaires de Jean-Claude Dozen qui nous a écrit depuis la ville de Kinshasa. Selon cet internaute, la question de l'emploi des jeunes diplômés est un véritable défi à relever et une véritable urgence à intervenir. Le constat est clair, beaucoup sortent de l'université sans savoir comment s'insérer sur le marché de l'emploi et le marché formel ne peut absorber qu'une petite partie des candidats demandeurs d'emploi. Il y a ceux qui ont l'expérience professionnelle et ceux qui n'en ont pas et c'est très compliqué. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Debs Evita s'occupe de la prise de son et Naomi Moutokier est à la réalisation. Puis Meshak Moutamoutou s'occupe de l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service. Nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment chercher efficacement de l'emploi au lendemain de ses études universitaires? Nous abordons ce sujet dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec M. Alain Poutou. Il est formateur et coordonnateur du centre de reconversion et insertion professionnelle. Chers auditeurs et auditrices, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Le taux de chômage des diplômés universitaires est particulièrement élevé chez les jeunes âgés de 25 à 34 ans, soit environ 21% pour les licenciés et docteurs. Et beaucoup de diplômés se retrouvent dans des emplois précaires ou sans lien avec leur formation. Ils deviennent souvent des vendeurs de cartes, des changeurs de monnaie au coin des rues de Kinshasa et des autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Et selon les spécialistes en ressources humaines, l'inadéquation entre la formation universitaire et les besoins du marché de l'emploi font que moins de 100 jeunes sur 1000 diplômés accèdent à un emploi formel au lendemain de leurs études universitaires. Quels sont les facteurs qui sont à la base de cette situation? Comment chercher efficacement de l'emploi lorsqu'on termine les études universitaires et supérieures? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Monsieur Alain Poutou, dites-nous, est-ce que partagez-vous ces constats selon lesquels de plus en plus des diplômés universitaires éprouvent des difficultés pour trouver de l'emploi au lendemain de leurs études?
Oui, monsieur le journaliste, c'est un fait réel. En tant que directeur des ressources humaines, ça, je vois ça aussi. Lorsque les offres d'emploi sont publiées, vous avez besoin d'un comptable, juste une personne à recruter, mais vous vous retrouvez avec 5000 dossiers de candidature, alors que vous avez besoin d'une seule personne. Vous avez besoin d'un gestionnaire de projet ou un délégué commercial, mais vous allez vous retrouver avec plus de 6000 candidatures. Surtout quand l'offre est publiée sur la radio Okapi, Média Congo et les autres sites internet. Donc vous allez vous poser vraiment la question, mais tous ces gens ici étaient toujours en train de lire cette offre d'emploi. Effectivement, le problème c'est quoi? C'est que il faut comprendre d'abord les problèmes à la base. Vous savez, nous sommes le système éducatif au fait que nous avons ici. C'est un système que nous avons hérité de l'époque coloniale. Vous voyez, lorsqu'on a mis en place ce système, en fait, on voulait former des élites. On voulait former des gens capables de réfléchir, capables d'élaborer des stratégies, des politiques. C'est-à-dire, les profils que l'université formait ou voulait former, c'était un profil à vocation conceptuelle et stratégique. Alors que, si vous regardez l'évolution du marché de l'emploi dans sa configuration actuelle, les postes qui reviennent souvent sont plus des postes à profil opérationnel, à profil d'exécution. Malheureusement, la formation universitaire telle que elle est conçue ou elle est organisée ne permet pas de former des profils d'exécution ou des profils opérationnel.
Donc, il y a une certaine inadéquation
entre la formation et académique et les besoins du marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que celui qui forme n'a pas aussi non plus eu le temps de se mettre ensemble avec celui qui recrute pour que celui qui recrute essaye de communiquer à celui qui forme les besoins. Comme ça, ça va faire en sorte que la formation sera adapté à la réalité du terrain. C'est-à-dire, on va former quelqu'un par rapport à ce que cette personne est censée faire sur terrain. Malheureusement, ici, on est dans une formation générale et généralisée. C'est-à-dire, on vous forme de manière globale, sans pour autant vous former de manière spécifique. Je peux vous donner un exemple, parce que nous sommes nous-mêmes passés par ces mêmes systèmes éducatifs. C'est simplement la différence, c'est que nous aussi, on s'est retrouvés aujourd'hui dans le monde professionnel parce qu'on avait eu la chance de rencontrer les gens qui nous ont orientés trop tôt. Vous voyez, ça nous a permis d'échapper au crash. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que je peux prendre mon... Quand j'étais étudiant en sciences commerciales et financières, monsieur le journaliste, je suis étudiant en sciences commerciales et financières, option comptabilité. Mais vous allez vous rendre compte en première année graduée, je me rappelle, on avait 22 cours étudiants en G1. Vous avez les cours comme l'histoire du Congo, vous avez les cours de philosophie, vous avez les cours de droit civil, vous avez les cours de statistiques appliquées à la distribution à l'étude du marché, vous avez les cours de la sociologie, vous avez les cours de droit civil, vous avez les cours de maths générales. Mais bon, je me suis dit, mais attendez. Je suis venu ici pour faire la comptabilité. Moi, dans ma tête, j'ai pensé que la formation devrait tourner tout autour du métier d'un comptable. C'est-à-dire, je devais avoir des cours, par exemple, sur comment analyser des pièces justificatives, comment faire l'archivage des pièces comptables, comment on fait l'encodage, comment on fait l'enregistrement, les réconciliations bancaires. Moi, j'ai pensé que ça allait être dans ce sens. Mais vous avez 22 cours. Quand vous regardez ces cours-là, et ce qui est étonnant, vous trouvez les cours, par exemple, de maths générales, mathématiques générales, c'est un cours de pondération 8. C'est-à-dire que si vous échouez
vous reprenez l'année.
En mathématiques générales,
Vous reprenez l'année.
Vous échouez en maths fines, mathématiques financières, vous allez reprendre l'année. Je me dis, mais on ne parle des utilités marginales, des iso-cours, des iso-camps, mais je suis étudiant en comptabilité. À quel moment on va me former sur les job description d'un comptable? Donc, vous voyez, c'est-à-dire, vous avez reçu une formation générale, généralisée, globale, mais quand vous allez chercher de l'emploi, ce que vous trouvez dans les offres n'a rien à voir, excusez-moi les termes, avec tout ce que vous avez étudié à l'université. C'est d'où le problème. Okay. Ça commence par là.
D'accord. Alors, je termine les études dans cette situation-là. qu'est-ce que je fais pour facilement trouver de l'emploi?
Très bien. Alors, en ressources humaines, disons, il y a ce qu'on appelle la période d'intégration professionnelle. Et c'est ce que beaucoup de diplômés ne comprennent pas. C'est-à-dire, on vient de vous coller parce que nous sommes au mois d'août. Je pense qu'il y a certaines universités qui sont en train de...
La première session, les étudiants défendent,
les collations de grades académiques, ça va aller peut-être
jusqu'au mois d'octobre.
Au mois d'octobre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Évitez de vous lancer directement sur le marché de l'emploi à la sortie de l'université. Ça, c'est vraiment une mauvaise approche. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous colle, par exemple, vous terminez les études au mois d'août. Vous avez 6 mois à mettre à profit ce qu'on appelle la période d'intégration professionnelle.
Du mois d'août jusqu'au mois de décembre, disons, ou janvier.
Oui, il faut compter 6 mois.
6 mois.
Période d'intégration professionnelle. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ces 6 mois? Les 6 mois-là consistent pour vous à une préparation sur les réalités professionnelles. Vous allez commencer par quoi? Vous allez commencer par ce qu'on appelle la méthode des 555. Identifiez 5 titres de poste qui reviennent régulièrement dans les offres d'emploi qui sont publiées.
Vous appelez ça méthode?
Des 555. 5 titres de poste qui reviennent régulièrement dans des offres d'emploi qui sont publiées. Et vous devez aussi récolter 5 offres d'emploi par poste. C'est-à-dire, on a 5 titres de poste qui reviennent régulièrement.
Le plus souvent.
Et à chaque titre
de poste. Dans votre domaine de formation.
Non, pas votre domaine. C'est la réalité du terrain. Il faut rester dans la réalité. Il ne faut pas rester accroché à votre domaine de formation.
Parce qu'on est formé en tant qu'universitaire.
Tout à fait. Regardez d'abord les réalités du terrain. Vous prenez 5 titres de poste qui reviennent.
Le plus souvent.
Le plus souvent. Et pour chaque titre de poste, il faut réunir au moins 5 offres d'emploi. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Je prends les postes de logisticien. Vous devez avoir 5 offres d'emploi du même poste de logistique. Vous avez les postes d'assistant au programme ou gestionnaire des projets. Vous avez 5
postes à pourvoir.
Voilà, 5 offres
d'emploi à pourvoir.
À pourvoir dans les mêmes postes.
D'accord.
Et que l'autre 5, c'est que ça doit être les offres d'emploi publiées par 5 différentes organisations ou 5 différentes entreprises. Donc, 5 titres de poste, 5 offres et 5 organisation ou 5 entreprises. On appelle ça la loi des 555. La deuxième étape consiste à analyser minutieusement chaque offre d'emploi par rapport à chaque entreprise ou chaque organisation. Ça vous permet à un moment donné de regarder est-ce que les exigences pour les postes de logistique chez Handicap International, est-ce que la même chose si on était chez Oxfam ou à l'UNICEF, par exemple. Donc, vous faites cette analyse-là. La deuxième étape, c'est d'analyser...
Une analyse comparative.
Comparative de quoi? Des tâches du poste, c'est-à-dire les attributions, ce que la personne va faire une fois que celle-ci sera
engagée.
Deuxième élément à vérifier dans l'offre, c'est les profils recherchés. Qui est-ce qu'on cherche concrètement? Quelles sont les conditions, les exigences? Alors, dans les exigences, vous allez regarder premièrement la qualification. Parce que vous avez parlé tout à l'heure ici de votre domaine de formation. La qualification. On cherche qui? Est-ce que c'est un licencié en économie?
Est-ce que c'est en droit?
En droit, en sciences commerciales et financières, en communication, en sciences politiques ou en relations internationales. Il faut vérifier ça dans toutes les 5 offres, vérifier quel est le diplôme exigé. Deuxième élément à vérifier, les années d'expérience. Est-ce que ce sont des offres d'emploi pour lesquelles on met l'accent sur des années d'expérience? Troisième élément, les compétences techniques, les savoir-faire exigés pour chaque poste et pour chaque offre d'emploi. Un autre élément, c'est que comment postuler? Qu'est-ce qu'ils ont demandé dans les dossiers de candidature? Les dossiers de candidature doivent être composés de quels éléments. Est-ce que c'est le CV et la lettre de motivation ou
uniquement la lettre de motivation?
Voilà, tout à fait. Et puis, à qui est-ce qu'on s'adresse? Si on est intéressé par le poste, la candidature doit être adressée à qui? Parce que souvent, les commets des mortels confondent. Tout le monde qui écrit s'adresse à monsieur le chef du personnel ou à monsieur le directeur des ressources humaines. Alors qu'il y a des offres parfois qu'on s'adresse au coordonnateur ou au chargé des programmes. Donc, c'est important de le faire. Alors, quand vous terminez cette analyse, la troisième étape, monsieur le journaliste, consiste à ce qu'on appelle les miroirs du profil. C'est-à-dire, regardez ce qui est demandé, comparez ça avec votre domaine de prédilection.
Pour identifier... Si ça reflète réellement votre profil de formation.
Identifiez les compétences que vous possédez et celles que vous ne possédez pas par rapport aux exigences
à ces avis de vacances de poste.
Alors, si vous constatez que, en mettant en balance ce qui est demandé et ce que vous maîtrisez, si vous trouvez que ce n'est pas équilibré, on ne postule pas. On doit passer à la quatrième étape de technique de la recherche d'emploi qu'on appelle la loi de la reconversion professionnelle. Parce que vous avez parlé de notre centre de reconversion et de formation professionnelle.
Oui, parlez-nous un tout petit peu de ces centres avant de continuer à développer l'argumentaire.
Oui, donnez-moi deux minutes, je finis ça pour ne pas perdre de fil d'idée.
D'accord.
Alors, vous faites la comparaison entre ce qui est exigé dans les avis de vacances et ce que vous avez fait comme formation académique. Parce qu'ici, on parle d'une personne qui vient de terminer des études universitaires.
Je suis, par exemple, diplômé en droit.
Tout à fait.
Il y a un avis de vacances de poste dans le domaine, admettons, du monitoring ou de la logistique.
Voilà.
Ce sont les avis de vacances de poste les plus courants.
Tout à fait. Vous ne trouverez pas les avis de vacances d'un conseiller juridique ou d'avocat conseil. Ça, il faut oublier. Voilà. Donc, vous analysez ce que le marché offre par rapport à ce que vous avez fait comme études. Maintenant, les compétences que vous possédez, vous devez aussi les lister. Et celles que vous ne possédez pas, il faut aussi les lister.
Et savoir comment combler
tout
ces compétences-là que je manque.
C'est là qu'on parle, si vous constatez qu'il y a des compétences qui vous manquent, ça ne sert à rien de postuler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement aller chercher comment acquérir des compétences que vous manquez.
Alors, c'est par là qu'on appelle...
La reconversion professionnelle. C'est-à-dire, j'ai fini en droit... Mais les exigences ou les besoins du marché de l'emploi
nécessitent d'avoir telles habiletés.
Voilà, je dois aller maintenant me faire former en rapport avec les 5 opportunités que le marché d'emploi les plus courantes. Vous viendrez maintenant postuler après avoir fait la reconversion. Ne commettez pas l'imprudence de postuler à la sortie de l'université. Il faut postuler à la 5e étape qu'on appelle la loi des 50/180. C'est-à-dire, après la reconversion professionnelle, vous devez maintenant soumettre 50 candidatures sur une période de 6 mois.
50 candidatures.
Ça, c'est très important parce que vous pouvez postuler. Parfois, on ne vous appelle même pas.
Oui.
Ou alors, on vous appelle, vous passez les interviews, mais...
Oui, mais Monsieur Alain, 50 candidatures, est-ce qu'il y a des avis de vacances des postes qui sont... Il n'y en a même pas assez, donc...
Non, ne dites pas il n'y en a même pas assez. Le problème, c'est quoi, Monsieur le journaliste? On va y arriver. Il y a aussi ce qu'on appelle, parmi les causes du chômage, c'est-à-dire la mauvaise cartographie du marché de l'emploi. Parce que beaucoup de ceux qui cherchent de l'emploi ne savent pas où trouver les offres d'emploi. C'est pour cela que vous voyez même les travails que... Nous sommes en train de faire dans les centres de reconversion et d'insertion professionnelle.
Parlez-nous un peu de ces centres,
voilà.
Monsieur Alain.
Alors, monsieur le journaliste, pour avoir travaillé dans 6 organisations internationales et 2 multinationales, nous avons acquis une expérience professionnelle suffisante, que j'appelle même solide. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis ensemble avec les autres collègues qui ont travaillé dans des organisations internationales et multinationales, les expérimentés comme vous, on a essayé de faire un travail de fond. Identifier les besoins réels du marché de l'emploi. On a essayé de comparer ça avec la problématique de l'inadéquation entre la formation universitaire
et le milieu de l'emploi.
On a compris que les besoins actuels du marché de l'emploi ne cadraient pas avec les filières que nous avons dans les universités. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant identifier les postes clés et mettre sur pied des formations professionnelles, modulaires, sur mesure, à vocation non académique, mais que ce soit des formations à compétences professionnelles, c'est-à-dire adaptées aux besoins réels du marché de l'emploi.
Afin de combler les lacunes
tout à fait.
Que les candidats n'ont pas eues à l'université.
Tout à fait, ce sont des formations très pratique, c'est-à-dire des formations conçues en fonction du job description et du profil recherché. Et qui donne ces formations-là, par exemple, au sein de notre centre d'appui à l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle? On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise « j'ai un doctorat dans tel domaine ». Non, ça c'est la recherche. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque formateur anime un module de formation en rapport avec les postes que lui-même
occupe dans une entreprise
dans une entreprise reconnue ou dans une organisation internationale. Si on veut former des journalistes techniciens présentateurs des émissions, on fait recours aux excellents journalistes comme vous, avec un CV consistant, costaud. Vous venez dans la salle de formation, vous dites aux apprenants ce qu'il faut faire sur terrain.
Et pas et question là-bas, de définition des théories, de philosophie du journalisme.
Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, la philosophie de notre centre, c'est de mettre sur le marché de l'emploi un profil prêt à être opérationnel. C'est ça un peu la stratégie. Donc, nous avons 15 modules de formation au sein de notre centre.
On va y aller, mais permettez-nous, Alain, d'aller d'abord au standard, parce qu'il y a des auditeurs qui attendent.
Oui.
Et puis, dans les corps de l'émission, vous allez développer.
Nous sommes là pour eux.
Les formations qui sont assurées au sein du centre de reconversion et insertion professionnelle. Comment chercher efficacement de l'emploi au lendemain de ces études universitaires? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Et si ces thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Okapi.
Le premier auditeur, il prend la parole à partir de la ville de Kinshasa, M. Alain. Il s'appelle Maître Gaston Gandou. Maître Gaston, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, Tati. Je salue aussi notre invité.
Bonjour, cher maître.
Soyez bref et concis,
s'il vous plaît. Je dirais qu'à part la formation universitaire, il faut, dès qu'on sort de l'université, surtout se former sur d'autres domaines qui, selon les marchés de l'emploi, vous vous formez pour avoir acquérir des connaissances et des compétences pratiques dans d'autres domaines. Qui est vraiment de solliciter dans les marchés, ça serait une bonne chose. Mais aussi, je voulais préciser une chose. J'ai pu constater que c'est vraiment difficile dès qu'on sort de l'université, surtout avec le système qui est le nôtre, d'être productif, d'être vraiment performant sur le plan professionnel, avec toutes les théories qu'on a là, comme l'invité vient de faire. Donc moi, j'ai conseillé que dès qu'on sort, il ne suffit pas de demander pour les prendre vraiment du temps de faire asseoir d'abord tes propres théories qu'on n'a pas pu asseoir, quels que soient les points qu'on peut obtenir à l'université, mais aussi acquérir des connaissances, des compétences pratiques en faisant même des bénévolats, parce que vous savez, l'expérience professionnelle vient avec l'emploi qu'on peut occuper, mais donc, si on ne peut pas vous employer parce que vous n'avez pas l'expérience, il faut faire n'importe quoi, même gratuitement, pour acquérir ces connaissances-là. Il y a aussi un besoin, une voie croissante d'emploi, de demander, mais les emplois, les postes en quoi pourvoir sont minimes. C'est pour cela, moi, j'ai considéré même qu'on ait plus de créateurs d'emploi pour compenser à cette demande croissante des emplois, comme l'a dit l'invité. Pour un poste, vous avez 5000 demandeurs, même si 50 sont compétents pour occuper ce poste, vous serez obligé de sélectionner
un seul candidat.
C'est là tous les problèmes que nous avons. Dès qu'on sort de l'université, prenez votre temps pour faire asseoir vos théories, parce qu'avec la théorie, ça devient la pratique, mais aussi acquérir des connaissances pratiques, même bénévolement, des compétences pratiques, et puis concourir comme les autres, mais surtout aussi, ne pas être tellement demandeur, créer des emplois.
Ça, ce sont des suggestions, Maître Gaston.
Ça,
ce sont des suggestions, Maître Gaston. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à l'invité?
Bon, moi, je pense que c'est une préoccupation. Au lieu que l'invité parle à tout moment des filières qui ne s'adaptent pas, moi, je pense que dans notre système, nous avons toutes les filières qui peuvent conquérir. Mais le problème, c'est que dès qu'on sort de l'université, on n'est pas compétent pour occuper un poste au vu de tout ce qu'on demande comme expérience, compétence pratique qu'on n'a pas. Et puis les postes aussi, il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut créer l'emploi pour engager ne serait-ce que ceux qui sortent, qui ont de bonnes théories, de bonnes connaissances, qui peuvent mettre en pratique pour acquérir cette connaissance-là. Donc on a toutes les compétences ici, mais peut-être les emplois, il n'y en a pas. Et puis, Voilà un peu, les gens qui sortent avec les hamburgers qu'il y a sur les plans de théorie qu'on a en masse là sur un unitaire de comptabilité, par exemple, des trois. Vous avez des cours qui n'ont rien à voir avec les trois. Vous devez sentir automatiquement maîtriser. Voilà, ça, c'est dans. Vous n'êtes pas assez.
Merci beaucoup.
On a toutes les compétences ici au pays.
Merci
ça,
beaucoup,
c'est vraiment
maître.
Ma préoccupation.
Merci beaucoup, maître. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Nous partons à Kisangani pour donner la parole à M. Thomas. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, M. Tati, et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je pense, M. Tati, ce serait un problème, en tout cas, l'emploi après ces études, ça devient casse-tête, en tout cas, pour les diplômés, en fait. Parce qu'on voit ici, chaque année, les universités placent les marchés d'emploi, en tout cas, autant des étudiants, dans des enseignements supérieurs, universitaires, partout là, on voit, en tout cas, chaque année, il y a les finalistes qui sont largués sur les marchés d'emploi. Mais le problème, c'est exactement le problème, c'est de trouver l'emploi. Ça pose un sérieux problème. Quand bien même on lasse les gens sur le marché d'emploi, mais trouver à soi l'emploi quelque chose, ça pose un sérieux problème. Heureusement qu'on a l'invité aujourd'hui parce que ce jour-là, on a parlé des problèmes des CV ce jour-là. Je reviens à ma question-là parce que l'invité disait qu'on va revenir sur la thème. Il faut qu'on puisse créer, se proposer un autre sujet par rapport à ça. Je reviens. Directement, j'entre dans au niveau des préoccupations.
Allez-y.
J'avais posé ce jour-là, on a déjà parlé de CV, j'ai dit comment alors rédiger, quelle est l'importance de la lettre de motivation. Parce que l'invité parle ici, et c'est pas par rapport à, parce qu'il faut annexer, il faut des CV, il faut rédiger les CV, mais également la lettre de motivation. Ça, je reviens à la question qui était posée autrefois, là. Quelle est l'importance
de la lettre de la motivation.
De la lettre de motivation. Ça, c'est la première question.
La deuxième.
Quel type d'entretien peut être attendu et comment les candidats peuvent faire face? Parce qu'au niveau, au moment pour être engagé, il y a les entretiens, ça peut être oral ou écrit, tout ça. Je ne sais pas, par rapport à ce type-là d'entretien, comment est-ce que les candidats doivent se préparer par rapport à ça pour affronter, pour se préparer efficacement contre, pour ces deux étapes-là d'entretien, à ce qui est des types d'entretien. Troisième question, comment également, quel type de stage ou d'expérience professionnelle peuvent être bénéfiques pour un jeune diplômé? Je ne sais pas par rapport à ça, qu'est-ce que l'invité pourra nous donner quant à ça? Quel type, en tout cas, de stage ou d'expérience professionnelle peut être bénéfique pour un jeune diplômé actuellement là? Qu'est-ce que l'invité pourra nous donner? Et la troisième question que je pourrais citer également, quelle stratégie adopter en cas de refus ou de manque de réponse de la part de l'employeur? Ça peut être l'employeur, ça peut être, une fois vous introduisez votre lettre, quelles sont les stratégies que vous, en tant que candidat, vous devez faire pour contourner ou pour que vous devez adopter en cas de refus ou des marques de réponse de la part de votre employeur ou à employeur de faux, par exemple, pour un candidat qui venait à peine d'introduire sa candidature à tel ou tel autre poste. C'est bien ça, mais quelques préoccupations que j'avais à l'éviter, M. Tati.
Merci beaucoup, M. Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Nous partons cette fois-ci à Bounia, en Ituri, pour donner la parole, à Iga Barrière, en Ituri, afin de donner la parole à M. Safari, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je ne suis plus pas à Bounia.
À Bounia.
Je suis pas
d'accord.
À Iga Barrière.
D'accord.
Oui, je disais, bon, je crois que j'ai une petite suggestion à l'éviter, parce que je l'ai suivi, et ce n'est pas, je crois, pour la première fois qu'on parle de ce sujet. Le problème revient peut-être à un niveau où j'ai constaté que bon nombre d'élèves ou bien d'étudiants n'arrive pas à écouter régulièrement la radio. Même votre émission ici, je ne suis pas sûr qu'ils soient en train de l'écouter. Alors, je dirais peut-être si ça peut aller, de constituer tous monsieur l'évité est en train de parler comme un cours spécial qu'on puisse l'introduire au niveau du secondaire ou de l'université. Car moi, lorsque j'étais à l'école, on nous parlait quand même de CV, mais on ne parlait jamais de lettres de motivation ou bien de parler des offres d'emploi. Donc c'est ce qui fait que je pourrais, si j'étais à monsieur l'évité, si ça pourrait aller. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Safari. Nous rappelons que c'est depuis Bounia, pardon, que vous avez pris la parole. Monsieur Alain, comment répondez-vous à nos auditeurs?
Alors, merci beaucoup. Je commence par mon estimé maître Gaston. Ce qu'il a dit est vrai, hein, c'est toutes ces propositions. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec lui sur toutes les lignes. C'est là, en fait, la difficulté qu'on a. C'est difficile, à la sortie de l'université, d'être à mesure de faire face aux exigences du marché de l'emploi. Parce qu'on est dans deux types de réalités. Vous venez d'être formé dans un système purement scientifique et académique, et vous devez aller sur le marché de l'emploi, où on fait face aux exigences professionnelles. Malheureusement, à l'université, on n'a pas communiqué aux étudiants à partir de l'auditoire les réalités du marché de l'emploi. Je prends juste un cas. Maître qui nous suit, maître Gaston, c'est un juriste, c'est un avocat. Mais regardez par exemple les droits du travail. De tous les parcours de formation d'un juriste, de première année graduée jusqu'en deuxième licence, les droits du travail, c'est un cours que vous avez en troisième année graduée ou en première année de licence. Mais si aujourd'hui, vous avez un litige du travail, soit on vous a licencié ou le décompte final mal
calculé,
voilà, vous allez saisir un avocat licencié en droit. Lui n'a pas appris comment on calcule le décompte final. C'est-à-dire, dans sa formation universitaire, on l'a pas appris une extension en détail comme ça, comment calculer un décompte final. Lui, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il va aller voir l'inspecteur du travail pour que l'inspecteur du travail puisse faire l'assimilation du décompte. Alors qu'on devrait déjà, à partir de l'université, former les avocats, les juristes, sur les calculs de décompte final. C'est-à-dire, même les droits du travail. Je vais vous dire, monsieur le journaliste, moi, j'ai maîtrisé ces droits en étant dans une société agro-industrielle qui a 6 délégations syndicales. Je peux vous dire que ce sont les délégués syndicaux qui maîtrisent les droits du travail, plus que même quelqu'un qui a fait les droits à l'université. Vous voyez? Pourquoi? Parce que eux, ils sont des praticiens.
Ils les vivent au quotidien.
Au quotidien.
Ils défendent les travailleurs au quotidien.
Et une personne qui n'a pas fait, par exemple, les droits, mais qui travaille aux ressources humaines ou au poste du chef du personnel pendant 5 à 7 ans, aura la maîtrise du droit du travail
que plus quelqu'un que même qui est sorti de l'université.
Voilà. Donc, ça dit que la formation universitaire pose problème. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est avocat ou qui a fini en droit, devrait passer par une formation en ressources humaines, une formation sur les calculs des décomptes finales, la gestion de la paie, l'indemnité des sorties. Comme ça, ça sera pour cette personne une valeur ajoutée à sa qualification. Les jours où il va aller, où elle va aller postuler, et là, les compétences scientifiques, et là aussi des compétences professionnelles. Ça, c'est important. Mais simplement, qu'est-ce qu'on constate, monsieur le journaliste? Si vous regardez, au moment de la collation des grades académiques, c'est que les parents dépensent, c'est qu'ils investissent pour juste organiser la réception ou la manifestation à l'occasion de la fin des études universitaires de l'enfant. Mais c'est tout un budget qui pouvait permettre à l'enfant de préparer sa période d'intégration professionnelle, de suivre des formations professionnelles supplémentaires à la qualification. Comment pouvez-vous imaginer une personne qui va aller chercher de l'emploi alors qu'il ne sait pas utiliser l'ordinateur, par exemple? Est-ce qu'il faut d'abord aller chercher de l'emploi et être buté à cette difficulté ou bien d'aller d'abord apprendre, faire l'informatique avant de commencer à chercher de l'emploi?
Le mieux serait d'apprendre.
Tout à fait. Donc, il faut que les gens développent la culture de formation professionnelle.
Il a également fait allusion au volontariat.
Au volontariat, parce que ça fait partie des techniques de la recherche d'emploi. Quand j'ai parlé de la loi des 50 sur 180, il y a aussi une autre loi, c'est la loi de la petitesse. Vous voyez, j'ai toujours pris l'exemple des agences du système des Nations Unies. Lorsque
la MONUC à l'époque, je crois bien, lorsqu'ils sont arrivés ici, je connais des licenciés, monsieur les journalistes d'université, qui étaient à la manutention à l'aéroport. Ouais, mais ces mêmes gens, après les temps, sont devenus de ce que vous appelez les national officiers, des administrateurs.
Officiers, oui.
Voilà, tout à fait. Donc, les gens doivent développer ça parce que chaque structure...
Accepter d'abord voilà, la première étape, le premier pas.
Politique.
Oui. Faut pas attendre le poste de directeur.
J'ai beaucoup évolué dans ce monde des organisations internationales, je sais comment ça fonctionne. Vous trouverez quelqu'un qui commence dans une ONG comme, il est soit à la guérite, hein. Il pointe des véhicules qui entrent, des véhicules qui sortent, soit il est au magasin en train de pointer les sorties et les entrées des stocks, mais après un temps, la même personne devient logisticien. La personne devient gestionnaire du chariot automobile. Donc il faut que les gens enlèvent cet orgueil-là pour dire je suis universitaire, je suis futur cadre.
Il faut que je commence par passer les responsabilités.
Non, ça c'est une grosse erreur. Ça c'est une grosse erreur. Donc voilà, ça c'est important. Il faudrait que les gens développent la culture de formation professionnelle. C'est important. Mais aussi, il a parlé qu'on a plus de demandes que des offres. Mais ça c'est vrai, mais à qui la faute? C'est l'université. Mais, monsieur le journaliste, prenez votre micro et votre caméra, faites un tour dans des universités, vous regardez les auditoires, mais c'est pas différent des églises. Donc, des auditoires...
Un nombre pléthorique, voilà, rempli d'étudiants.
Mais qui vous a dit qu'on a besoin de tous ces gens? Parce que normalement, il faut éviter les invendus. C'est-à-dire qu'on met plus sur les marchés, on déverse sur les marchés d'emploi des milliers de diplômés alors que les opportunités sont minimes. Alors, il faut décourager ces systèmes. C'est pour cela que moi, parfois, quand je regarde, monsieur le journaliste, les mêmes filières sont organisées presque dans toutes les
universités
qu'on a ici. Faites un tour ici. Vous commencez, par exemple, ici, jusque, par exemple, vers Tiangou. Faites l'inventaire des universités. Vous trouverez, ce sont les mêmes filières. Et on forme...
Et les mêmes enseignants qui sillonnent, qui font le tour de ces universités-là.
On ne sait même plus contrôler. Bon, on se retrouve avec, par exemple, 15 000 juristes déversés sur les marchés de l'emploi. 7 000 économistes. Mais qui nous a dit qu'on a besoin de tous ces gens? Pourquoi on ne peut pas former en tenant compte...
Du besoin. De la demande.
De la consommation.
De la consommation, oui.
Mais, et puis... Qui met aussi dans la tête des gens que pour devenir utile dans la vie, il faut nécessairement aller à l'université. Non, la formation universitaire, normalement, c'est pour ceux qui doivent aller, par exemple, travailler dans des administrations publiques où on va demander de passer des concours, parce que ça demande un certain niveau
de réflexion.
Mais pour une personne qui doit travailler dans des structures privées, dans des entreprises, dans des postes opérationnels, dans des organisations internationales, est-ce qu'il a besoin de l'université?
Pas forcément.
Un diplôme de gradué avec des formations professionnelles suffit. Mais c'est tout à fait. Alors, il faut que les gens puissent développer cette culture des formations professionnelles et des écoles de métiers.
Avant de répondre aux préoccupations de l'auditeur de Kisangani, M. Thomas, on va retourner au standard pour donner la parole à M. Trésor Mwamulumba. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole encore.
Nous vous écoutons.
Bon, nous parlons du chômage en RDC. Il faut d'abord aller à la source. Le problème, c'est notre système éducatif. Comment un enfant peut rester sur le banc de l'école pendant 17 ans, 12 ans études, 6 ans primaire, 6 ans études secondaires, tout ça,
ça
et puis
5
ans... Soit 7 ans s'il a fait la médecine.
17 ou 19 ans?
19 ans, si vous voulez.
Sans compter le redoublement. Sans compter le redoublement.
Oui. Alors qu'en Chine, un enfant de 12 ans, à ce niveau-là, il est capable de vous fabriquer les chaussures, les cricots, les chemises, voire même les téléphones. J'ai des questions à poser à notre invité.
Allez-y.
La première question est la suivante. Quel est le rôle que doit jouer notre État et les entreprises privées pour améliorer l'employabilité des jeunes en RDC? Ça, c'est la première question. C'est très important. La deuxième question, pensez-vous que les diplômes seuls aujourd'hui pour trouver un bon emploi en RDC suffit? Si vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous... Merci beaucoup.
Je vous en prie, monsieur Trésor, nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous avez pris la parole. Il y a monsieur Blaise Saïdi qui est à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour cher Tati, bonjour à l'invité.
Nous vous écoutons.
Cher Tati,
oui.
Les problèmes chez nous en République démocratique du Congo comme ailleurs, j'avais souligné la semaine passée, à ce qui concerne les problèmes de travail et d'emploi, c'est un problème contemporain. Mais néanmoins, chez nous, il y a un taux plus élevé. Je dois aller tout juste à demander un peu à l'invité. Est-ce que chez nous, il y a une association regroupant les chômeurs pour faire pression au gouvernement? Voilà. Et je dois continuer avec ma série de questions. La deuxième préoccupation, quel rôle jouent les stages, les bénévoles et l'entrepreneuriat dans l'insertion professionnelle des jeunes? Je pense bien que non, l'invité avait déjà parlé ça, mais nous pouvons toujours y revenir pour une bonne compréhension.
Et puis on dit que la répétition est la mère de la science. C'est toujours important de...
Tout à fait.
Exactement, allez-y.
Tout à fait, cher Tati. Et je continue. Quel accompagnement les universités et l'État devrait-il mettre en place pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés? Et pour citer, quelles sont les principales erreurs que commettent les jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi? Je me limite à ce niveau-là, cher Tati. Merci.
Merci beaucoup, M. Blaise Saïdi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa, dans le de Kisangani plutôt, que vous avez pris la parole. Excellente journée. Monsieur Alain, je me tourne vers vous. Excusez-moi, j'ai risqué d'oublier. Avant de répondre aux préoccupations des auditeurs, on était en train de parler des modules de formation que votre centre organise.
Oui, j'étais en train de dire que c'est à la suite aussi de ces constats amers de la problématique de l'inadéquation entre la formation universitaire et les besoins réels du marché de l'emploi que nous avons décidé. Après avoir passé par des grandes structures internationales, on a occupé des postes de ressources humaines, des responsables financiers, administratifs. On s'est dit, mais bon, voilà, il faut maintenant mettre en place une structure. Parce que toutes les questions que les auditeurs posent ici, les rôles de l'État, les rôles de l'université,
montre qu'il y a des lacunes,
il y a un problème. Alors, en attendant toutes ces réformes, nous on s'est dit, mais on a lu la Constitution permet à tout Congolais,
garantit le travail à tout Congolais,
voilà, tout Congolais d'apporter une valeur ajoutée ou d'aider la nation avec son expertise. Parce que au lieu simplement d'attendre gouvernement, aujourd'hui la politique est devenue comme un emploi, c'est plus l'apostolat. Vous voyez, alors nous on s'est dit, non. Nous, notre apport dans ces pays, au lieu d'être là pour tirer sur le gouvernement, critiquer, voir tout en noir, non. On a l'expérience, on a l'expertise. Qu'est-ce que nous on fait? On a créé ces centres de reconversion et de l'insertion professionnelle, où on a mis sur pied, en fait, nous sommes maintenant, peut-être les auditeurs doivent retenir ça aujourd'hui, ces centres en RDC et maintenant les ponts entre l'université et le marché de l'emploi. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Oui, mais vous faites de la reconversion
parce
dans
que,
quel domaine?
Oui, qu'est-ce que nous nous faisons?
Quels sont les modules de formation?
Nous allons vers les entreprises, ok? On regarde quels sont les besoins réels du marché de l'emploi. Nous regardons les offres d'emploi aussi qui sont publiées dans des différents sites internet. On regarde quelles sont les offres qui reviennent. Maintenant, on a conçu des modules de formation qui s'adaptent à ça. Le premier, d'ailleurs, c'est samedi ici déjà, nous allons organiser une grande activité ici à Kinshasa, ce qu'on appelle la semaine d'intégration professionnelle. C'est-à-dire, ça sera axé sur les techniques de la recherche d'emploi. Ça va aller de 11h à 15h30, où on va expliquer en détail, avec les rétroprojecteurs dans la salle, la rédaction du nouveau modèle du CV, avec toutes les rubriques. La rédaction de la lettre de motivation, avec les 5 paragraphes. Les techniques d'interview d'embauche. On va brosser les 17 techniques pour réussir l'interview. On va parler des stratégies, les 5 stratégies pour contourner les années d'expérience professionnelle exigées par les recruteurs. Donc ça, c'est le premier séminaire qui aura lieu ce samedi, de 11h à 15h30.
Ça sera où?
Ça sera à la 10e rue Limétée, dans l'enceinte du couvent des prêtres missionnaires de Saint-Paul. Et ce séminaire concerne toute personne. C'est-à-dire les étudiants qui sont finalistes, qui ont obtenu leur diplôme d'État récemment, ceux qui sont en dernière année à l'université, ceux qui ont déjà fini, les parents, même les églises. Parce que, en tout cas, on va, parce qu'ici, c'est la radio. Moi, j'ai besoin d'un tableau pour faire la démonstration. On court derrière les temps. C'est pour cela que on va consacrer les samedis pour ça. On fait ça à Kinshasa, c'est samedi. Après, on va faire la même activité à Lubumbashi, la même activité à Kisangani, à Matadi. Ok, on va faire la même activité à Kolwezi, parce qu'en fait, la Constitution nous autorise d'aider l'État. Donc, on va faire ça dans toutes les grandes villes. Alors, on a aussi la formation sur les calculs des comptes finaux et la gestion de la paie.
Ça concerne surtout les travailleurs. Mais
c'est tout le monde, y compris les avocats. Comment calculer des comptes finaux, comment gérer la paie. Le troisième module, c'est la formation en monitoring, suivi et évaluation des projets. Le quatrième module, c'est la formation en assistant au programme gestionnaire des projets. Le cinquième module, c'est la formation en gestion du charroi automobile.
Ça, ce sont des postes les plus justement, publiés ces derniers temps.
Le sixième, c'est la formation en assistant logisticien. Nous avons la formation d'assistant administratif. Il y a la formation des chargés des ressources humaines. Nous avons la formation en assistant financier et comptable des ONG internationales. Moi, j'ai fait les études aussi en sciences commerciales et financières. La comptabilité qu'on nous a enseignée à l'université n'a rien à voir avec la comptabilité des projets. La comptabilité appliquée par les ONG internationales qu'on appelle la comptabilité de justification des fonds. Cette comptabilité n'est pas enseignée à l'université.
Non.
Donc, nous avons inséré aussi ces modules. Il y a les modules sur la passation des marchés. Vous savez que vous entendez les détournements, les procès de gauche à droite, la procédure n'a pas été suivie, tout. On a pris maintenant un expert en passation des marchés qui est en fonction, qui viendra donner cette formation. Nous avons la formation des mobilisateurs communautaires. Monsieur Tati, ce qui est intéressant avec notre centre, c'est quoi? C'est que ces formations ne sont organisées que les soirs de 17h à 19h. On vous laisse aller à l'université. Les formateurs sont des employés des organisations internationales et des multinationales. Ils vont aller au travail.
Les soirs,
on se retrouve pour faire la formation. À part ces samedis ici, où ça va se passer la journée parce que les gens ne travaillent pas.
Est-ce que c'est aussi possible, Monsieur Alain, de suivre ces formations à distance? Je suis à Kisangani, je suis à Mandaka, je suis intéressé. Est-ce que c'est possible de créer des groupes WhatsApp, par exemple, par lesquels les candidats vont suivre les cours et puis discuter?
Oui, parce que beaucoup de gens, des bénéficiaires, les gens ont besoin de ces formations, étant donné que nous sommes ici. C'est qu'on a fait, d'abord, il faut que les auditeurs sachent que on a implanté des antennes. Nous avons une antenne à Kisangani, une antenne à Lubumbashi, une antenne à Kolwezi, une antenne à Matadi, une antenne à Kikwit, une antenne à Kadémi.
D'accord.
Ça, c'est déjà nos points focaux.
C'est déjà fonctionnel.
Alors, on va leur donner des contacts pour qu'ils nous contactent à la fin. Et on est en train de réfléchir aussi, comme vous dites, des formations en ligne. Mais seulement que nous, notre philosophie, c'est une philosophie pratique et technique. C'est-à-dire, on préfère vraiment que, par exemple, c'est lui qui est le directeur des ressources humaines, donne la formation en ressources humaines. Les journalistes donnent la formation des journalistes terrain. Les gestionnaires de projets, un project manager donne la formation en gestion des projets. Un spécialiste en monitoring, suivi, évaluation donne la formation en suivi et évaluation
de projet.
C'est ça la particularité. Et chaque module est sanctionné par un certificat des compétences professionnelles. Voilà un peu la particularité. Donc nous sommes vraiment dans
le domaine de la reconversion professionnelle pour adapter les diplômes à la demande.
Vous avez fini en droit. Vous trouvez pas les postes de conseiller juridique. Vous ne trouvez pas les postes d'avocat conseil. Vous n'avez pas réussi, par exemple, au concours à la magistrature. Est-ce qu'il faut croiser les bras?
Non.
Qu'on vous appelle maître, vous n'avez pas d'emploi? Non. Voyez, ou quelqu'un qui a fini en électromécanique, on n'a pas d'industrie au Congo, lui n'a pas d'emploi. Il est content, on l'appelle au quartier.
Ingénieur,
alors que les offres d'emploi sont ailleurs. D'où la nécessité de la reconversion. Quelqu'un qui a fini en philosophie, ou qui a fini en histoire. Mais si vous n'êtes pas à l'enseignement, vous devez aller où? Alors, il faut faire la reconversion. C'est tout très important. Ouais. Vous savez, messieurs les journalistes, il faut qu'on revienne sur la reconversion. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui passe toute sa vie qu'en politique? C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui travaille, les jours où il va avoir sa retraite, il ne traîne pas humeur. Parce que les gens n'ont pas le plan B. La reconversion aujourd'hui, c'est une solution. Si je n'ai pas ça, c'est que je peux. C'est important. Parce que le système éducatif, pour refondre ça demande du temps. Maintenant, entre-temps, on fait quoi?
Il faut chercher des alternatives.
Donc, il faut encourager les gens aux formations professionnelles. Ils ont la chance parce que le Seigneur a permis que nous puissions avoir cette expérience professionnelle et la constitution du pays nous permet d'aider aussi la nation. C'est comme ça que ces centres existent aujourd'hui.
Alors, il faut répondre rapidement à la question de Thomas qui voulait que tu reviennes encore sur la lettre de motivation rapidement parce que le temps s'est grandi.
Mais il nous reste cinq minutes, tout à fait, monsieur le journaliste. Oui. Par exemple, il parle de l'importance de la lettre de motivation. La lettre de motivation diffère de la demande d'emploi. La lettre de motivation accompagne les CV. En fait, l'important de la lettre de motivation, c'est pour persuader les recruteurs que votre profil correspond au profil recherché par les recruteurs.
Et on l'a dit en cinq étapes, vous l'aviez dit.
Non, il y a cinq paragraphes, c'est-à-dire une seule page, mais vous devez ajuster ça en cinq paragraphe. Bon, malheureusement, je ne sais pas, parce que ça va nous prendre à peu près 30 minutes, malheureusement, on n'a pas le temps. Il parle aussi de comment se préparer efficacement à l'entretien d'embauche. Ça, c'est toute une thématique de l'émission qu'on ne saura malheureusement pas expliquer
aborder, évoquer les 17
techniques d'interview ici. Il pose la question, les types de stages et d'expériences professionnelles peuvent être bénéfiques. Alors là, moi, j'ai toujours conseillé aux gens, même si vous êtes dans une église, ayez une responsabilité dans un département. C'est très important. Vous avez votre oncle, une tante qui a un restaurant, un supermarché, une boutique, qui a une pharmacie. S'il vous plaît, passez le temps dans ça. Vous comprenez?
Vous allez apprendre beaucoup
de choses. Ça constitue déjà une... Parce que quand on parle, je vais y revenir sur ça prochainement, comment contourner les années d'expérience professionnelle. Peut-être ceux qui sont à Kinshasa vont en profiter le samedi lors de notre semaine d'intégration professionnelle. C'est-à-dire, quand on parle d'expérience ici... On ne parle pas uniquement d'expérience formelle. Il y a aussi l'expérience informelle. Je vous donne un cas de quelqu'un que nous avons accompagné qui était scout. Mais aujourd'hui, il travaille quelque part comme mobilisateur communautaire. Mais qu'est-ce qu'il avait mis dans son CV? C'est son expérience comme scout. Ça apparaît un peu quelqu'un qui
Banal, mais c'est
voilà, quelqu'un qui était
dans ça il y a les
quelqu'un qui est membre, voilà, membre de la couleur rouge par exemple. Il trouve ça comme si c'est rien. Mais on met ça dans un CV, on a besoin d'un mobilisateur communautaire, un relais communautaire. La personne intègre son expérience de scout, de couloir rouge, dans le CV.
Il a le boulot.
Mais tout à fait. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Vous êtes trésorier dans une église ou dans une organisation. C'est une expérience professionnelle. Je vais expliquer comment il faut l'intégrer dans un CV, comment l'expliquer dans les CV.
Monsieur Alain, on est coincé par les temps, excusez-moi. Numéro de téléphone de contact pour des gens qui aimeraient poursuivre les échanges avec vous et pour des formations des antennes locales, s'il y a quelques numéros,
d'accord.
Ça va beaucoup aider nos auditeurs.
Très bien. Alors, on peut déjà nous contacter par WhatsApp ou par appel normal au 082-53-90-016. Je communique ça pour la dernière fois. 082-53-90-016. Une fois qu'ils nous contactent, on leur envoie directement les numéros de nos différents points focaux. Donc, pour ceux qui sont à Kinshasa, vous êtes avocat, vous êtes parent, vous êtes étudiant, vous êtes finaliste, chercheur d'emploi. Le rendez-vous est pris pour ce samedi, mais il faut déjà faire la réservation bien avant parce que c'est un couvent. Il faut qu'on vous donne déjà les macarons bien avant.
Rappelez pour la dernière fois le numéro de téléphone.
C'est le 082-53-90-016.
Monsieur Alain Poutou, nous rappelons que vous êtes formateur et coordonnateur du Centre de Réconversion et Insertion Professionnelle. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service et espérons que ce n'est pas le tout dernier rendez-vous hein, parce que il y a encore beaucoup à dire dans le cadre domaine de l'emploi et recherche
du travail. Les auditeurs n'ont qu'à remercier la radio Okapi parce que ça c'est vraiment de l'apostolat. Merci pour votre invitation.
Chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que prend fin le magazine Okapi Service et que j'ai eu l'immense plaisir de vous les présenter sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutoké a réalisé ces rendez-vous. Debs Vita s'est occupé de la prise de son et Meshak Moutam Muntou était à l'édition multimédia. Les rendez-vous sont pris pour demain pour un nouveau numéro du magazine Okapi Service. Excellente journée.